Nous sommes heureux de vous accueillir en ce samedi 8 novembre à la salle de la Prade, ici à Pradines dans le Lot, pour une soirée exceptionnelle organisée par l'association Avec Pradines, dont nous sommes partenaires. Alors au programme, la représentation du seul en scène Henriette ou la fabrique des folles, portée par la compagnie Les Atlantes et interprétée par la comédienne et autrice Cyril Atlan. Alors cette pièce est également accompagnée en musique par Pascal Desmonsant à la clarinette et à la guitare, qui apporte une dimension, vous allez voir, poétique et sensible au spectacle. Elle raconte l'histoire en fait authentique et bouleversante d'une femme enfermée pendant 46 ans. 46 ans. Elle nous invite à réfléchir sur sa santé mentale, bien sûr, sur l'enfermement et l'évolution des soins psychiatriques. À l'issue du spectacle, eh bien, un débat sera animé avec le psychiatre, Henri Gorguet, accompagné d'un psychologue pour échanger avec vous sur ces thématiques essentielles, avec vous, auditeurs, et avec les spectateurs qui vont venir à mon micro. Nous espérons que cette soirée vous touchera et vous fera réfléchir. Merci d'être parmi nous.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Quel est votre prénom ?
Bruno.
Bruno, vous venez de quel endroit ?
J'habite dans un petit village à une demi-heure d'ici.
Alors je vois que les gens rentrent, on va faire vite parce qu'après vous n'aurez plus votre place. Pourquoi vous êtes venu ce soir ? Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Alors à vrai dire, c'est une occasion particulière parce que c'est l'anniversaire de ma compagne aujourd'hui.
Et d'accord.
C'est une première.
Chérie, je t'offre un spectacle de psychiatrie, ça tombe bien. Bon anniversaire. C'est ça le truc.
Voilà.
D'accord, on ne cherchera pas le pourquoi et le comment.
Non, mais on aime tous les deux aller au spectacle et on ne connaissait pas cette salle, donc c'est l'occasion de découvrir. Justement.
Mais alors, vous n'avez pas de professions qui sont en rapport avec ça ?
Non.
Vous n'avez pas de gens qui ont été malheureusement enfermés ? Non, c'est juste par curiosité, si
oui,
je comprends bien.
Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse et dont je savais que ça pouvait aussi la toucher. Ouais.
Est-ce que la psychiatrie, ça vous fait peur ?
Non, je dirais pas ça.
Demain, je suis serial killer. Je passe devant un tribunal et un psychiatre me sort au bout de 6 mois. Comment vous allez réagir ? Bah, il estime que j'ai été maltraité durant mon enfance, que ceci, que cela. Et puis finalement, à l'encontre du tribunal, il estime que je ne suis pas dangereux.
C'est une très bonne question.
Comment vous réagissez là ?
A priori, vous ne serez pas sorti, enfin vous serez à l'hôpital psychiatrique malgré tout, mais vous ne serez pas libéré à proprement parler.
Je vais poser ma question différemment. Le fait que je n'aille pas en prison, mais en hôpital psychiatrique, est-ce que vous, en tant que public, en tant que ça vous suffit, ça vous dit, bon, c'est bien, il ira quand même en hôpital psychiatrique. Il sera quand même enfermé. Ça vous suffit ? Supposons que, votre femme, j'ai découpé en morceaux, par exemple, voyez ? Excusez-moi.
Pour ce que je connais de l'hôpital psychiatrique, a priori, c'est pas le Club Med. Je crois pas que ce soit beaucoup plus plaisant que la prison.
Ça marche. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bye. Comment tu t'appelles ?
Oriane.
Oriane.
Ouais.
Tu as quel âge, Oriane ?
20 ans.
Oriane, bonsoir.
Bonsoir.
Oriane, tu as 20 ans. Tu es de Cahors ?
Pradines, ouais.
Pradines, t'es de Cahors, quoi. Bon, tu viens pas très loin. Pradines, tu viens donc pour ce soir, pour cette pièce de théâtre, Henriette ou La Fabrique des Folles. Déjà, le titre, moi, ça m'interpelle, hein, La Fabrique des Folles. Pourquoi t'es venue ce soir ?
En fait, j'étais venue à la présentation des spectacles de l'année qui avait été fait par la Prade.
Oui.
Et c'est vrai que ce sujet m'avait intéressée, parce qu'il avait expliqué un peu que ça parlait des femmes à l'époque où quand elles étaient enfermées souvent par les maris et qualifiées d'hystériques, etc. C'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait, voir comment ça pouvait être traité en pièce de théâtre.
Tu envisages quoi comme étude ou comme métier plus tard ?
Là je suis en troisième année en école d'éducatrice spécialisée.
Donc c'est logique.
Donc c'est logique.
Donc tu attends quoi de ce spectacle ? Tu veux en savoir plus, imagine ?
Ouais, en savoir plus sur parce que j'ai eu des cours sur la psychiatrie et sur l'évolution de la psychiatrie, mais ça reste intéressant parce que c'est quand même un pan qui est quand même présent dans l'éducation spécialisée, mais qui est pas non plus le plus abordé en cours, etc. Donc c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur le sujet, quoi.
Quand tu penses qu'une personne est enfermée 46 ans, moi ça me paraît fou, quoi. Est-ce qu'on peut enfermer 46 ans ? Alors je crois qu'aujourd'hui c'est peut-être plus ça, mais à l'époque 46 ans, dans les conditions en plus qu'on devait être enfermé, ça t'affole pas toi ce genre de truc ?
C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant.
Bah oui.
Après en soi, à l'époque actuelle, il y a encore des gens qui sont en psychiatrie pendant des années. et qui faute de traitement, faute de stabilité, ou faute de, enfin voilà, ou des professionnels qui savent pas faire, ou qui voilà. Effectivement, il y a des personnes qui sont enfermées très très longtemps, que ce soit en psychiatrie ou même des personnes en situation de handicap, mentale notamment avec de la déficience, qui vont être en institution toute leur vie en fait.
Pour toi, les principaux obstacles pour que la santé mentale soit mieux comprise et mieux prise en charge, tu dirais quoi ? Tu répondrais quoi à cette question-là ?
Je dirais,
ton niveau, bien sûr.
Oui, à mon niveau. Je dirais d'écouter les gens déjà, ce qu'ils ont à dire, parce qu'en fait, quand on est en stage, etc., on voit qu'en fait, les personnes concernées ont déjà plein de ressources et plein d'idées sur qu'est-ce qui pourrait être bien pour elles. Donc déjà, discuter et avoir cette approche qui soit et l'expertise des professionnels, parce qu'ils ont une expertise, et l'expertise des personnes qui sont concernées avec la paire aidance qui est super importante.
Je te sens très concerné par le sujet. Hein. Est-ce que tu auras des questions à poser au psychiatre tout à l'heure, j'imagine ?
Ouais, peut-être, je sais pas.
Ça va venir au fur et à mesure, ouais. Ou peut-être même à la comédienne, parce que je pense qu'après, la comédienne va venir nous voir. C'est un seul en scène. Ça va pas être facile. Hein. Tu sais qu'en plus, j'ai appris tout à l'heure, enfin, le psychiatre nous a dit tout à l'heure au micro, que la procédure pour être interné, et puis ça commence par un proche. C'est un proche qui va commencer à faire un rapport sur nous, quoi. T'es rasméfié quand même. Enfin, c'est assez fou quand même. Est-ce que tu penses-tu que la société pourrait mieux accompagner aujourd'hui les personnes souffrant de troubles mentaux ?
Bah, oui, c'est un pan de la médecine qui est quand même assez délaissé. Enfin, on le voit, il y a de moins en moins de psychiatres. Moi, je fais un stage long dans le handicap.
Oui.
Et c'est très compliqué de trouver des psychiatres. C'est un pan qui est très peu observé dans la société. Ouais, on en parle de plus en plus, mais on en parle surtout par rapport aux jeunes, etc. Et c'est super intéressant, hein, c'est génial, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été du tout abordé avant le Covid. Mais il reste encore ce truc. Et puis moi, je sais que du coup, j'ai vu dans mes cours que avant la psychiatrie, c'était beaucoup de petites équipes mobiles en fait qui allaient auprès des gens.
Ouais.
Et maintenant, en fait, ça c'est il y en a, la plupart des équipes mobiles n'ont plus de financement en fait, et donc on se retrouve avec beaucoup d'internements et aussi des personnes en fait qui malheureusement faute de prise en charge passent à l'acte et se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont pas la place d'être en prison parce qu'ils ne sont pas en capacité de faire, et du coup plus d'équipe proche en fait, et qui fait qu'il n'y a plus de place dans la psychiatrie
parce
globale.
Que là tu touches un point sensible, la psychiatrie n'est pas toujours comprise par le public, notamment quand un criminel commet des actes ignobles, la psychiatrie intervient, et puis souvent la psychiatrie à ce moment-là n'est pas toujours comprise. Comment tu réagis souvent ? Parce que quand quelqu'un va massacrer quelqu'un d'autre, bon, alors on nous explique que malheureusement il a eu une vie très compliquée avant.
C'est sûr que c'est. Enfin, même moi je pense que ça se comprend pas. Enfin, ça se comprend, mais ça. Tant que tu le vis pas,
on l'accepte pas, quoi.
C'est compliqué à accepter, surtout si t'es proche de la personne, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, avant d'en arriver à ce point-là, s'il y avait des équipes plus proches dans les départements, des équipes mobiles comme ça pouvait se faire, comme ça a commencé à se faire. Ça pourrait en fait empêcher, on n'empêchera jamais les crimes, mais ça pourrait déjà empêcher un bon nombre en fait de choses qui pourraient arriver, de passage à l'acte qui pourrait se faire, quoi.
Mais en fait, si on prenait ça à la base, souvent je me suis dit, moi, si les gens, on les prenait tout de suite, on n'attendait pas 5 ou 6 ans ou 10 ans qu'ils aient commis des choses ignobles pour agir, ce serait plus utile tout ça, non ?
C'est ça, et c'était le principe des équipes mobiles, mais faute de budget, c'est de la psychiatrie en institution.
Nous parles de budget en novembre 2025, je crois qu'en ce moment c'est un fait extrêmement d'actualité là que tu es en train de nous parler.
Oui, mais c'est pas...
Faut faire des économies là, je te rappelle.
Oui. C'est ça le problème.
En tout cas, merci à toi.
Bah,
si jamais après on se revoit, après le spectacle, j'aimerais avoir ton sentiment et tes réactions.
Okay.
C'est possible ?
Oui.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bye bye. Nous sommes effectivement ici à cette salle de la Prade, à Pradine dans le Lot, pour ce spectacle, un seul en scène, Henriette ou la fabrique des folles. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans quelques minutes.
CFM Radio. 40 ans de liberté. 40 ans d'expression.
Henriette ou la fabrique des folles, c'est le nouveau spectacle de la compagnie Les Atlantes, proposé par l'association Avec Pradine, qui s'est déroulé samedi 8 novembre à la salle de la Prade à Pradine, donc dans le Lot. C'est une émission enregistrée que vous écoutez. Et dans le cadre de la santé mentale, eh bien, ce seul en scène évoque en fait l'histoire authentique d'une femme enfermée pendant 46 ans. Et cette femme, vous le verrez tout à l'heure, est la propre arrière-grand-mère de l'actrice qui est sur scène pour ce seul en scène. Un théâtre débat organisé donc à l'issue du spectacle sera animé par un expert psychiatre, Henri Gorguet, qu'on recevra dans quelques instants à notre micro. Pour le moment, nous avons croisé une psychologue et voici l'entretien que nous avons eu juste avant le spectacle. Comment accompagne-t-on aujourd'hui une personne qui a vécu un enfermement ou une longue hospitalisation ?
Après une hospitalisation, les hospitalisations sont bien moins longues qu'elles n'étaient à l'époque de la pièce qu'on va voir
ce soir. Hein.
Et ensuite, il y a un service de suite qui assure les soins psychologiques.
Quand vous parlez de longue hospitalisation, c'est quoi ? C'est un mois, deux mois, six mois ?
Oui, ça peut être...
Ça peut être beaucoup plus ?
Ça peut être trois semaines pour une observation, mais ça, le docteur vous le précisera.
D'accord, ouais.
Mais ça peut être beaucoup plus, oui. Ça peut être plusieurs années pour certaines pathologies, mais c'est très rare. Hein.
L'isolement comme ça, ou l'enfermement, quel effet psychologique ça a sur un patient ? Vous devez le savoir, ça, vous devez le ressentir.
Actuellement, quand il y a des hospitalisations aussi longues, c'est qu'elles sont nécessaires hein, par rapport à la pathologie de la personne.
Comment vous adoptez comme ça en face à quelqu'un ? Vous avez un langage comme ce soir, très calme, très fluide, ou vous vous adaptez à son langage ?
Je m'adapte toujours à son langage. Là, je parle comme ça parce que je suis un peu impressionnée que je n'ai pas l'habitude. Mais sinon, on reçoit tout type de personnes.
Ouais.
Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des personnes âgées, des personnes plus ou moins efficientes au niveau intellectuel, des personnes qui sont très troublées, qui sont très anxieuses. Donc, on adapte toujours en fonction de ça.
Il y a une période d'écoute avant... Enfin, vous, c'est une période d'écoute, là, c'est la psychologie. Vous écoutez beaucoup, c'est que ça.
C'est que de l'écoute, ouais. Oui. Et des renvois comme ça de paroles importantes, d'approfondissement de certains propos.
Ouais. Comment les proches peuvent-ils soutenir un patient ? Est-ce que les proches vous contactent en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon fils, ma fille ou mes parents ?» Ça vous arrive, c'est des fois, d'avoir des contacts avec ces gens-là ?
Alors, quand on travaille avec des enfants, c'est nécessaire de travailler avec la famille.
Voilà.
Quand on travaille avec des adultes, à partir de la majorité, c'est plus délicat. Parce que on n'est pas dans l'obligation de rendre des comptes à la famille. Et qu'il y a une confidentialité par rapport aux propos qui sont et au suivi psychologique de la personne.
Est-ce qu'il y a des méthodes pour combattre l'isolement ? Est-ce que vous leur conseillez des choses ou pas du tout ? Ou c'est pas votre rôle d'ailleurs,
quel
peut-être ?
Quel isolement ?
Bah, quand quelqu'un s'est isolé de lui-même, de la société, oh. Et qui vous en parle, qui se rencontre, et qui vous demande un peu un appel au secours, comment vous réagissez là ?
Non, ça dépend beaucoup des personnes.
C'est large comme question.
Ah, c'est très large, ah ouais. Parce que ça peut être... Soit c'est une personne qui s'isole de son milieu familial et il y a des choses à lier avec ses membres de la famille pour essayer de justement pallier à ça. Si c'est une personne très, très isolée, comme ça arrive malheureusement, là, il faut voir un petit peu avec l'environnement social, socio-éducatif, s'il existe des choses pour les amener à une ouverture.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentez limité avec un patient ? Il faut passer de la psychologie à la psychiatrie. Vous le sentez, ça, à un moment donné ?
Bien sûr, oui. Quand il y a des troubles qui sont trop importants, nos champs d'intervention sont très distincts, en fait. Hein. Nous, on est dans une écoute et dans quelque chose du long terme. Alors, certains psychiatres peuvent le faire, mais de moins en moins.
Ouais.
Ils sont plutôt dans la médication et dans... ça, le docteur vous en parlera mieux que moi.
Ouais.
Mais ils sont plutôt dans la médication, maintenant.
Qu'est-ce qu'un patient difficile ? Est-ce qu'on peut parler comme ça de patient difficile ou compliqué peut-être ? Compliqué serait peut-être plus amené que difficile.
Un patient difficile, c'est peut-être un patient qui demande beaucoup à être reçu, mais qui n'en fait pas grand-chose.
Ah, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Ah oui, d'accord. Donc,
il y a des patients, mais que ce soit des enfants ou des adultes, hein, qui demandent à être reçus, souvent très rapidement, dans l'urgence, vite, 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 j'ai besoin de parler, et qui n'en font pas grand-chose finalement, qui n'élaborent pas à partir de leurs souffrances, qui ne vont pas plus loin, qui n'arrivent pas à... qui restent empêtrés dans leurs plaintes, en fait. Ça, c'est très compliqué.
Et pour vous, donc, c'est compliqué, donc c'est ça. Comment vous faites à ce moment-là? Vous cherchez une autre méthode, façon de lui parler, un autre angle?
Oui, tout à fait.
C'est ça, vous travaillez comme ça?
Oui, et puis parfois il faut recadrer, reparler du cadre des rencontres, de préciser pourquoi on se voit, et à partir de là, voilà, recadrer les choses un petit peu, c'est-à-dire repréciser un peu pourquoi on se voit et essayer de recentrer les choses sur l'après.
Je vous parle en faisant exprès, en faisant des gestes.
Oui.
Est-ce que ça, vous l'observez?
Oui.
Ça vous parle, les gestes?
Oui. Oui, alors après, je n'en pense pas grand-chose. C'est-à-dire, moi, je suis habituée à observer une foule de choses, mais j'en fais pas grand-chose. J'en fais que si c'est au service de la personne et à la demande de la personne. Voilà.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
CFM Radio. 40 ans de liberté. 40 ans d'expression.
Un débat va être animé ce soir, pardon, avec le psychiatre Henri Gorguet, j'espère que je prononce bien, c'est bien ça, accompagné d'une psychologue, peut-être deux si j'ai bien compris.
Non, il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une psychologue, alors vous voyez, j'en avais dit deux, pour échanger donc avec les spectateurs sur ces thématiques essentielles. J'aimerais vous poser une première question, monsieur Gorguet. Alors, vous n'avez pas vu le documentaire comme moi, on va tous le découvrir tout à l'heure, parce que là on est au début de la projection, juste avant la projection. Vous savez néanmoins pourquoi Henriette a été enfermée aussi longtemps? Est-ce qu'on vous l'a expliqué ça ou pas déjà?
Oui, je connais la problématique. C'est l'histoire des internements abusifs à une époque où régnait la loi de 1830 sur les internements. Loi des Squirols, loi des aliénés, où il était assez facile d'hospitaliser. Et cette loi, elle a duré de 1830 à 1990, donc 100 et quelques, 150 ans. Et c'était une loi, pour interner quelqu'un, il y avait deux modalités, soit l'internement volontaire, soit l'internement d'office. Le volontaire, en fait, il n'avait rien de volontaire, puisqu'il était sans consentement, et il s'appelait volontaire. Maintenant, il s'appelle libre, c'est-à-dire on se fait hospitaliser parce qu'on le veut pour se soigner.
Attendez, vous êtes en train de me dire que la méthode est la même, en fait? Il y a juste le nom qui a changé?
Non, avant, le volontaire, c'était pas volontaire. C'était finalement...
Oui, c'était pas volontaire, en fait. Ouais. Il était, on l'enfermait de nous-mêmes, quoi.
Et voilà, voilà. Et donc, ça s'appelait hospitalisation volontaire. Et le deuxième, c'était hospitalisation à la demande d'une autorité de l'État. Il y avait deux types d'hospitalisation. Ça s'appelait hospitalisation d'office. C'était le préfet, le maire, un juge pour vous interner d'office.
Mais on se demande comment on peut enfermer quelqu'un 46 ans. C'est quasiment une vie, quoi. C'est presque une vie, quoi. C'est incroyable.
Oui. Ça n'existe plus parce que ça s'appelait l'hospitalisation complète. Maintenant, c'est très rare les cas d'hospitalisation complète. Il y a des alternatives énormes à l'hospitalisation. Les hôpitaux de jour, les séjours épisodiques, l'hospitalisation à domicile, tous les jours un infirmier psychiatrique vient vous voir, les sorties à l'essai, c'est-à-dire on sort 3 mois, les vacances. C'est l'hospitalisation contraignante, complète, est devenue très rare. Et elle est très contrôlée.
Est-ce que dans ces années-là, on avait droit à consulter un psychiatre ou pas? Ça existait déjà? Enfin, ça existait, mais est-ce qu'on pouvait le consulter déjà?
Alors, jusqu'en 1830, les psychiatres s'appelaient des aliénistes, parce que les malades étaient aliénés. Et il a fallu attendre, donc, 100 ans plus tard, 1930, pour qu'on parle plus d'aliénés et d'asile, mais on parlait de malades mentaux et d'hôpital psychiatrique. 1930, donc 100 ans après.
Et dans le cas d'Henriette, vous savez si elle a contacté, enfin si elle a été consultée ou si elle a reçu des soins d'un analyste?
Ce qu'il faut différencier, c'est que l'hospitalisation sans consentement, c'est une chose, mais après, à l'intérieur de l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on accepte ou pas? Est-ce que si je suis hospitalisé sans consentement, j'accepte les électrochocs, par exemple? C'est pas dit dans le texte.
Ah oui, c'est vrai ça.
Oui. Est-ce qu'il y en a, à une époque on faisait des cures de Sakel, est-ce que je les accepte? J'accepte, je suis sous consentement, hospitalisé donc, sous contrainte, ça s'appelle comme ça, sans consentement. Mais il n'y a pas marqué, et les soins sont-ils sans consentement ou avec consentement? C'est pas marqué dans la loi. Ça.
Mais on se demande, une personne enfermée comme ça pendant 46 ans, mais elle fait quoi de ses journées? Elle lit, mais enfin, elle fait pas que lire, je sais pas.
Non, à l'époque, il les faisait travailler. Voilà, il les faisait travailler.
S'occuper l'esprit et le temps, quoi.
Oui, oui, il les faisait travailler. Alors, le titre de la pièce est marrant parce que la fabrique des folles.
Oui.
Est-ce qu'on a fabriqué une folle, c'est-à-dire on s'est trompé de diagnostic, elle n'était pas folle, et c'est une erreur de diagnostic? Ah, ou oui. est-ce qu'on a voulu l'hospitaliser pour se débarrasser d'elle, donc on invente la folie? Voilà, et donc c'est la fabrique des folles. Où est-ce qu'elle est devenue folle? Elle avait rien, mais à force de passer des années entre quatre murs, on devient fou. Donc c'est les trois hypothèses.
Peut-être qu'on aura les réponses à l'issue voilà. du spectacle, je ne sais pas, voilà. mais effectivement, ces ouais. trois questions-là se posent.
Et oui, c'est-à-dire, ouais. on a fabriqué une folle, c'est-à-dire qu'on a fait un faux diagnostic par erreur, là c'est une erreur, ça peut arriver. Ou alors on l'a inventé, ce qui se faisait à l'époque, hein. On a inventé un opposant politique qui vous gênait, le préfet décrétait que vous étiez fou, quelques témoignages, un certificat médical et vous étiez en prison. Oui. À l'hôpital.
Oui, aujourd'hui.
C'est plus possible. C'est contrôlé. Maintenant, pour être hospitalisé, il faut la demande d'un tiers qui est parent ou ami.
Et qui, d'accord.
Dont on sait qu'il travaille dans l'intérêt de la personne. Donc parent ou ami. Pas un inconnu. Un inconnu ne peut pas dire, tiens, je vais faire des... Je demande à ce qu'on hospitalise en psychiatrie celui-là.
Donc un proche, parent voilà. ami, d'accord.
C'est parent ami, un proche qui connaît bien le... Et ce patient, il faut qu'on prouve...
Il doit justifier, lui.
Oui, il faut qu'on prouve qu'il n'est pas capable de se rendre compte de sa pathologie.
Oui.
Et qu'il lui faut des soins immédiats et une surveillance constante. Par exemple, un mélancolique qui peut se suicider ou qui veut se suicider. Ou un délirant qui s'immoler par le feu. Voilà. Donc il faut... Ah. Il faut donc qu'on soit sûr qu'il ne se rend pas compte et qu'il a besoin de soins. Donc déjà, ce n'est pas évident. Ça, c'est dans le premier cas, hospitalisation, la demande d'un tiers. Hein.
D'accord.
La deuxième, il y a après.
Mais ça paraît logique, ce que vous dites là. Voilà. On peut le comprendre.
Et là, il faut la demande, bien étayée, tout ça. Et puis, il faut deux certificats médicaux. Un fait par un médecin, pas forcément psychiatre,
oui.
de ville, médecin de ville,
oui.
urgentiste. Et un deuxième fait... par un médecin qui peut être de l'établissement psychiatrique ou pas. Deux certificats médicaux.
D'accord.
Et avec ces deux certificats, plus le tiers, écrit, manuscrit, le directeur d'un établissement que vous avez contacté, eh bien, il fait rentrer la personne qui rentre souvent de force. Hein, c'est les pompiers, le SAMU, tout ça qui l'amène à l'hôpital. Quoi, voilà. Et là, il faut trois certificats. Celui, à l'arrivée, il voit la personne... Et il dit non, je ne la prends pas, elle n'est pas malade mentale, il fait son diagnostic, c'est un psychiatre. Hein.
D'accord.
24 heures après, 24 heures, certificat d'observation, après 24 heures, oui, elle mérite hospitalisation, non, elle ne la mérite pas.
D'accord.
72 heures après, un autre certificat par un autre psychiatre. Hein. C'est-à-dire trois, ça en fait trois.
Ils sont trois différents, mais d'accord, ok, très bien.
Voilà, troisième certificat des 72 heures, dit des 72 heures,
ouais.
Et là, il dit, oui, il fait une hospitalisation complète, on l'enferme, non. Elle a besoin de soins psychiatriques, mais pas en hospitalisation complète, en hôpital de jour, toutes des formules plus souples. Quoi.
Voilà. Mais est-ce que ces trois psychiatres, entre eux, se concertent?
Ah non, non, non.
Ah non, non, sinon ce serait trop facile.
Ah oui, non, ils ne se concertent pas. Non.
Ouais, non. Donc heureusement qu'ils ne se concertent pas quelque part, qu'il y a trois avis différents.
Voilà.
Ouais.
Et après, une fois que l'hospitalisation complète est décidée, tous les mois, un certificat médical de psychiatre doit être envoyé au préfet, disant qu'elle continue. Elle est toujours ceci, elle est toujours cela, malgré les souhaits. Elle est suicidaire, délirante, etc. Tous les mois. Et au bout d'un an d'hospitalisation, c'est un collège de plusieurs psychiatres, pas forcément de l'établissement, à qui on présente le dossier et qui disent oui, il faut continuer l'hospitalisation ou non. Après un an, on peut envisager d'autres possibilités.
Tous les mois, donc ça fait quoi? 36 rapports dans l'année, en fait?
Alors, ah non, tous les mois, un seul certificat.
Un seul certificat,
par un psychiatre,
d'accord.
qui la suit. Le psychiatre qui la suit dit...
D'accord, d'accord.
Voilà. Et au bout d'un an, 12 certificats, donc,
oui.
C'est un collège qui décide si on poursuit un an de plus, deux ans de plus, trois ans de plus. Un collège de psychiatres. Il y a celui qui fait les soins, mais il n'y a pas que lui. Il y a un expert des tribunaux, il y a un psychiatre du CHU, universitaire, donc il y a un chercheur, il y a tout. C'est un collège, voilà. Et le collège envoie au préfet en disant il faut maintenir l'hospitalisation une deuxième année et un an après, il y aura encore un nouveau collège si la personne reste hospitalisée.
Alors, on s'entend bien, quand on parle d'enfermement, là, c'est pour sa sécurité à la personne en question.
Oui.
Et la sécurité du public aussi, j'imagine.
Du public ou d'une personne. C'est pas l'ordre public qui est troublé, là. Hein. C'est, par exemple, il peut décréter que le voisin lui envoie des mauvaises ondes. Il décide de faire, d'éliminer ce voisin. Son intégrité personnelle et intégrité d'une personne. C'est pas vraiment l'ordre public. Hein. C'est...
Donc, ça peut toucher tout le monde, en fait, ce qu'on est en train de dire, en fait. Hein. Il faut faire attention, hein, quelque part. Hein.
Le problème, ce qui a changé, c'est donc l'hospitalisation. Et cette loi, c'est... Après, à la demande d'un représentant de l'État, là, c'est le préfet qui va, ou le maire. Il y a quelqu'un, par exemple, qui se balade avec un couteau dans une rue, ou après une garde à vue, en garde à vue, il a mis le feu, il est un psychiatre décrète qu'il est malade mental, hospitalisé. Ouais. Le préfet prend l'arrêté ou le maire prend l'arrêté.
Ouais.
Et après, s'applique à nouveau le certificat des 24 heures, le certificat des 72 heures, un certificat tous les mois. Vous voyez ?
Ouais, je comprends. Comment la psychiatrie a-t-elle évolué depuis cette époque en termes de traitement ou d'éthique ?
Alors, déjà, ce qui a évolué, c'est depuis 1950, les diagnostics psychiatriques sont codifiés dans un manuel qu'on appelle le DSM. Ça veut dire diagnostic et statistique manuel, voilà, de maladie mentale. Hein, on dit plus maladie mentale, on dit trouble mental.
D'accord.
Le mot maladie a été...
D'accord. Voilà. C'est important.
Mais oui, c'est dans l'éthique, voilà. C'est comme on dit plus hôpital psychiatrique. On dit centre hospitalier spécialisé.
Ah oui, c'est peut-être plus joli, mais enfin bon, c'est la même finalité.
Oui, c'est la même réalité. Il y a toute une terminologie qui cherche, mais ça c'est pas que dans ce domaine, hein, qui cherche à adoucir la dureté des mots, quoi. Voilà. Et alors, si vous voulez, ce qui a été supprimé, c'est la lobotomie. Les cures de Sakel. Les cures de Sakel, c'est des comas hypoglycémiques. On mettait la personne en coma, puis on levait le coma, puis on la remettait en coma 10 fois, 20 fois, 30 fois.
Et comment ces personnes peuvent se reconstruire après ? Ça me paraît dément, ce que vous dites là.
Oui. Et la lobotomie a duré... Celui qui a inventé la lobotomie, c'est un psychiatre portugais. On sectionnait, vous l'avez vu, d'un vol au-dessus d'un nid de coucou. On sectionnait les connexions frontales, etc. Et ça rendait le malade totalement apathique. Il vivait plus. Il était apathique, ça veut dire une pâte à modeler. Voilà.
Oui, mais c'est l'image qu'on a en fait. Hein,
voilà. Alors, ça n'existe plus. La lobotomie, c'est interdit. L'électrochoc, ça se pratique. Hein. L'électrochoc, on ne sait pas comment ça marche. Ça se pratique.
Aujourd'hui, quels mécanismes sont en place pour protéger les droits des patients internés ? Est-ce qu'il y en a, j'imagine ?
Ah oui. Alors, les mécanismes, il peut saisir à tout moment. Avant, il y avait le JLD. Jusqu'en 2024, c'est pas vieux, vous voyez. Le JLD, le juge des libertés de la détention.
D'accord.
Vous pouviez le saisir à tout moment.
Ah,
voilà.
D'accord.
Donc, le patient, hein, je parle. Le patient,
d'accord.
Ou la famille, ou son avocat, ou un médecin traitant de famille, pouvait dire, les psychiatres sont fous, je demande au juge des libertés de décider de libérer ma femme ou mon ami. Et le juge de liberté demandait l'avis d'un expert judiciaire. Hein. Voilà. Et donc, j'étais longtemps un expert judiciaire, d'ailleurs.
Donc, voilà. Vous-même, vous avez été consulté pour ça, quoi.
Ah oui, souvent. Ouais. Et là, le juge de liberté, il maintient ou il libère la personne, ou il demande d'aménager l'hospitalisation dite en continu. Donc, il propose des sorties à l'essai, des vacances, des séjours en famille, de ne pas enfermer. Aussi, il précise les modalités. Isolement, parce que soit vous êtes dans le service, libre, soit vous êtes isolé dans une chambre. Voilà, il y a plusieurs... Quand on dit hospitalisation, qu'est-ce qu'on y fait dedans ? C'est pas précisé dans nulle part. On n'est pas d'accord pour se faire hospitaliser, mais... du coup, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi de la personne qui est hospitalisée.
Parce que nous, on imagine une chambre classique, blanche, avec un lit simple, un petit bureau, et puis point, la ligne, quoi.
Ouais.
Des barreaux aux fenêtres, et voilà ce qu'on imagine. Non
oui, non, ils ont humanisé quand même maintenant.
Bon, c'est une image un peu stéréotypée, ce que
je dis là. C'était comme ça, mais c'était comme ça avant. Mais avant, ils étaient même enchaînés, donc avant 1830. La loi de 1830, c'est marrant, ça s'appelle. C'est un médecin psychiatre, Pinel, il s'appelait.
Pinel.
Oui, Philippe Pinel. Et il était, en plus, il était catholique, royaliste, franc-maçon. Il a paradoxalement humanisé les malades mentaux. Parce que les malades mentaux, ils étaient enchaînés, ou brûlés, ou tués, etc. à l'époque, avant 1830. Hein.
Ils étaient brûlés carrément.
Ouais, ils étaient enchaînés. Ils étaient considérés comme des pestiférés, des fous. C'était même pas des malades. C'était des animaux. Et lui, en 1830, il a dit, il a libéré plusieurs enchaînés dans un hôpital célèbre à Paris. Il les a libérés. Et tout le monde s'attendait à ce que ces bêtes libérées lui sautent dessus et l'étranglent. Et tous sont venus lui serrer la main, lui ont fait des bises, on te remercie, tu nous as libérés. Et c'est là qu'il a dit, mais dans l'être humain, même quand il est fou, il y a toujours une part d'être humain.
Ah oui.
Et c'est cette... Donc, on est passé du traitement physique, enchaînement, tabassage, il y avait tout, hein, eh bien, on va les considérer comme des malades. Et donc, il a fait créer en France, dans tous les départements, un hôpital psychiatrique spécialisé pour ces malades, au lieu de les mettre dans des espèces d'hospices, prison. Voilà.
Il y en a un par département.
Ah oui.
Ils sont toujours en place.
Oui, oui. C'est ça. Ouais.
Ah ok, très bien. Okay.
Voilà. Ouais. C'est un endroit où on va faire un traitement, il appelait ça, Esquirol, Pinel, il a appelé ça le traitement moral des malades mentaux. Il dit qu'il y a une part d'humain dans ces malades, et cette part humaine, il faut la faire ressortir. Donc il a proposé de s'en occuper.
Moi, je me suis toujours demandé comment un psychiatre, surtout vous en plus, comment vous faites pour trouver un équilibre dans tout ça ? Que c'est quand même perturbant tout ce que vous me dites là.
Oh, à l'époque, on faisait...
Surtout que là, vous me parlez très calmement, avec un petit sourire, comme si on allait voir une pièce comique. On va voir un drame dans quelques instants. C'est fou quand même. Comment vous faites pour avoir cet équilibre-là ?
À l'époque, les psychiatres, les psychologues, je ne sais pas, mais les psychiatres, la plupart, et pas tous, hein, faisaient ce qu'on appelait un suivi psychanalytique ou équivalent. Il y avait plusieurs modalités. Hein. C'était travailler sur soi, quoi.
Je peux vous demander une question personnelle ? Est-ce que vous êtes marié ?
Je l'ai été.
Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un... Comment dirais-je sans, est-ce qu'un psychiatre n'a pas tendance à analyser ses proches ou
alors,
sa femme ? Je ne sais pas comment dire ça.
Là, j'ai une réponse claire là-dessus. C'est-à-dire que moi, c'est un défaut. Ça m'est reproché par mes collègues psychiatres.
Ah, c'est un défaut, ça.
Et il me dit, c'est à cause de ça... que par moment tu te retrouves avec des pervers entourés de pervers là qui te manipulent parce que tu poses ta casquette de psychiatre quand tu rencontres les gens en dehors du boulot. Voilà. Et d'ailleurs quand ma compagne, pas ma femme maintenant, c'est une compagne, m'embête, je lui dis attention, je vais remettre la casquette de psychiatre.
Vous lui faites peur là. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Orguet. Vous allez donc répondre après à toutes les questions. Il va y avoir à peu près entre 70 et 90 personnes.
Ah oui.
Bah écoutez, belle soirée, bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup,
merci.
Monsieur.
CFM Radio. 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
On est avec Pascal de Monsang.
C'est ça.
Le spectacle vient de se terminer, le débat également. C'est vous le musicien, c'est oui. Vous qui mettez les mots en valeur avec votre musique. Comment vous avez fait pour travailler le texte ? Est-ce que vous jouez de la clarinette, vous jouez de la guitare ?
Voilà.
Et sincèrement, chaque note est placée.
Ah ben merci.
Comment vous avez fait ?
On a travaillé et ensuite c'est vraiment un travail de jeu pour moi qui se rapproche du jeu musical entre deux musiciens avec Cyril la comédienne. Parce qu'elle a cette manière de faire, peut-être de venir du théâtre de rue aussi, de savoir vraiment s'adapter. Ça se fait sur le moment aussi. Il y a un travail en amont, bien sûr, c'est préparé. Mais il y a vraiment un jeu sur l'instant. On s'écoute comme deux musiciens s'écouteraient. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a des fois où ça marche mieux que d'autres aussi. Parce que forcément, ça dépend de l'instant. Mais il y a un travail en amont, bien sûr.
Parce que vous jouez devant, derrière, avec la lumière, avec des ombres.
Ouais.
Et c'est, parce que c'est même pas de la musique, ce sont des notes. C'est des notes qui sont assemblées, mais qui durent pas trop longtemps.
Oui, juste c'est vrai, c'est des petites touches musicales.
Des petites touches pour pousser l'émotion. C'est très réussi en tout cas.
Merci beaucoup.
Bravo.
merci.
Bravo.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Merci beaucoup déjà d'être venu.
Merci à vous.
Nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Atlan. Alors, vous êtes comédienne, vous êtes autrice, vous êtes metteuse en scène et puis vous êtes la fondatrice de la compagnie Les Atlantes, c'est ça ?
Tout à fait.
Me trompe pas. Alors, le spectacle est terminé, le débat a eu lieu, un beau débat du reste, il y avait beaucoup de monde qui restait, on était tous surpris mais agréablement. Moi-même, je suis encore ému là, c'est très très émouvant. Je m'attendais pas à ça moi, je m'attendais à un spectacle un peu pathos. Et puis c'est pas du tout ça que j'ai vu quoi. Je sais même pas qu'on parlait de votre arrière-grand-mère. Je l'ai appris pendant le spectacle. On parle de votre arrière-grand-mère et en plus, vous avez dit tout à l'heure, je ne sais même plus, que le monsieur qui s'occupe du son est son arrière-arrière-petit-fils, si j'ai bien compris. C'est émouvant ce que j'ai vu ce soir. C'est très émouvant et puis c'est très beau. Pas besoin d'artifice de tous les côtés. Il y a juste des draps, des lumières, un musicien. Il y a quelques petites notes seulement. C'est pas la peine de faire un artifice de musique qui est suffisant pour porter votre émotion, pour porter notre émotion, pour porter votre texte. Waouh, on avait la larme aux yeux quand même. Mmh. Mais comment vous faites pour vous, pour on parle de votre famille là, que vous n'avez pas connue, vous l'avez découvert à travers un dossier, si j'ai bien compris. Vous l'avez découvert et puis vous avez écrit, ça a dû bouleverser quand même votre existence tout ça, non?
Tout à fait. Et je l'ai découvert par un rêve, ça c'est important à dire quand même. C'est-à-dire que ce que j'explique au début du spectacle, c'est suite à un rêve où elle est venue me visiter et me prévenir que j'allais tomber malade. Donc c'était j'insiste sur le rêve parce que c'était vraiment très puissant. C'est-à-dire que moi je fais beaucoup de rêves et j'écoute beaucoup mes rêves, mais là c'était, elle était là quoi, je l'ai senti.
Mais là on parle de paranormal.
Alors si vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que elle est venue me visiter, elle est venue me dire que j'allais être malade et elle est venue m'a demandé de la libérer.
Mais vous avez été vraiment malade.
J'ai été malade, oui.
Donc vraiment, elle vous a apporté ce diagnostic déjà dans votre rêve.
Voilà.
Et vous le saviez pas avant.
Non, ben non. 3 jours après, j'ai appris que j'avais donc une tumeur et que j'allais avoir j'avais un cancer du sein. Et donc vous imaginez bien l'obsession pendant tout le soin et j'ai de la chance d'être entourée de gens très cartésiens comme ma tante qui m'a quand même écoutée et entendue et qui m'a accompagnée. Et oui, ça l'a bouleversée elle aussi, ça m'a bouleversée moi. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'Henriette, qui était une femme folle, oubliée de la famille, c'est-à-dire qu'on n'en parlait absolument pas comme dans beaucoup de familles. Quand une femme est enfermée dans le placard, comme on dit, une femme folle dans le placard dont on ne parle pas, Henriette aujourd'hui est devenue une héroïne. C'est-à-dire que quand on en parle à la maison, quand j'en parle avec mes parents, moi j'ai touché Henriette, moi je lui ai parlé, moi je l'ai vue, et c'est devenu quelqu'un d'important. Là où toute sa vie elle a été enfermée, non pas oubliée parce que son frère et ma grand-mère ont essayé de la sortir de l'asile pendant des années, et après ils ont abandonné parce que c'était impossible.
Ah, c'est ce que j'ai compris, ils ont eu du mal en fait à la sortir. En fait.
Ils n'ont pas pu la sortir, elle est enterrée aujourd'hui dans une fosse commune, elle est morte là-bas, et comme beaucoup de femmes, après moi je témoigne d'Henriette, mais c'est malheureusement pas la seule personne qui a subi ces soins, quoi. On appelle ça des soins, donc pour moi c'est plutôt des tortures. Et aujourd'hui, j'aime en parler parce que je vois à quel point ça résonne chez plein de monde, plein de personnes qui viennent me témoigner de leurs propres histoires et plein de personnes qui viennent chercher, qui veulent connaître leur histoire. J'étais encore avec une jeune fille qui est beaucoup plus jeune que moi, qui doit avoir 30 ans, qui elle avait des larmes aux yeux et qui dit « Moi, il faut que j'aille chercher mon histoire. » Et plus on va chercher nos histoires, plus on réparera et moins on se fera de mal. Et peut-être moi, il y aura une guerre.
Ça, c'est un peu utopique, peut-être.
Bien sûr, mais moi, c'est mon travail d'être utopique. Et je compte l'être encore et encore.
Ça s'appelle Henriette ou la fabrique des folles.
Ouais.
Déjà, le titre veut dire beaucoup de choses.
Oui.
Vous avez travaillé, si j'ai bien compris, durant la conférence de presse qu'on a eue à l'instant, sur les lieux où votre arrière-grand-mère se trouvait. Vous avez tout réuni pour vous bouleverser, j'ai l'impression quand même.
Pour me bouleverser.
Ah oui, vous-même quand même, non?
De toute façon, je l'étais, hein, quand vous avez un cancer et que vous tapez de la chimio et tout, vous êtes bouleversé. J'étais bouleversé.
Oui, mais là, il y avait deux problèmes quand même. Hein. Il y avait votre cancer et votre arrière-grand-mère, vous découvrez toute
sa vie.
Sauf
que ça
a
été un parcours de soins total. C'est-à-dire qu'après, je l'ai joué partout, à des endroits. En fait, à chaque fois que j'allais jouer quelque part, je me rendais compte que c'était un endroit où j'avais été avant et qui avait du sens par rapport à cette grand-mère. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un gros parcours de soins. Que je réalise ça aujourd'hui au bout de 5 ans. Je ne l'ai pas fait en me disant « je vais me soigner ». Je l'ai fait parce que c'était évident, il fallait le faire. Et aujourd'hui, je vois à quel point ça m'a apaisé, ça m'a donné énormément et ça m'a permis de rapiécer l'histoire, m'aligner, de réparer, de pouvoir parler à ma fille de tout ça. Voilà, on peut se parler de notre histoire et de la violence que nos ancêtres ont subie. Et que cette violence-là, on ne va pas continuer à la porter.
Ah oui, c'est ça. Dans la fabrique des folles, vous laissez entendre que c'est eux qui ont fabriqué cette folie en elle, en fait, quelque part, à un moment donné.
Alors, je laisse entendre... Alors, eux, c'est qui, déjà ? Parce qu'il faut le définir. Pour moi, eux, c'est tout un système, en fait. Le système de la psychiatrie à cette époque-là, d'ailleurs, qui ne s'appelait pas la psychiatrie, c'était les aliénistes. Le système du patriarcat, qui qui a violenté les femmes et qui le fait encore, et qu'on, évidemment, on souhaite tous, je pense, aussi bien hommes et femmes, que ça cesse, qu'on arrive à trouver un terrain un terrain d'entente pour moins se faire mal les uns et les autres. Du coup, ça évite les bourreaux et les victimes. Peut-être qu'on s'en sortira un jour, mais en tout cas, voilà, le système pour moi à cette époque-là, en tout cas, c'était le système des aliénistes, le système le patriarcat et les gouvernants. Et comme aujourd'hui, ce que je disais pendant le débat, c'est attention. Quoi, moi, je me pose la question aujourd'hui, qui donne les critères de la folie ? Qui définit ce qu'est une maladie ? Ce qu'est une folie ? Pourquoi on enferme certaines personnes ? Voilà. C'est une question ouverte.
Est-ce que depuis combien de temps vous jouez c'est même pas un spectacle, j'allais dire un documentaire théâtral, je sais pas comment on peut appeler ça en fait.
Moi je l'appelle un acte de libération.
Un acte de libération, oui, ça me plaît.
C'est quand même un spectacle, il y a quand même un objet théâtral et poétique important et c'est important.
Est-ce
de
que
le
depuis
dire.
Ce temps, votre arrière-grand-mère est venue vous visiter ?
Non, pas du tout. Plein d'autres gens.
Vous auriez envie qu'elle le fasse ?
Maintenant ils se donnent tous la... Non, parce qu'elle est près de moi depuis en fait. C'est-à-dire que j'ai énormément de chance depuis, tout s'ouvre, tout est évident, tout est simple. Donc non, j'ai pas forcément envie. J'aimerais, alors ma prochaine étape, c'est, alors il y a deux étapes, c'est d'aller en Algérie déposer un souvenir pour elle. Pour moi, c'est un peu la ramener dans le pays qu'elle a aimé. Et puis, quoi que je crois qu'elle a aimé, parce que j'en sais rien finalement. Et puis, deuxièmement, c'est pouvoir mettre une plaque au 3 bis F, quoi, à l'hôpital, à l'asile de Montperrin, pour dire voilà, j'ai enquêté. Henriette a vécu là et tant d'autres femmes ont été torturées, parce qu'elles ont été vraiment torturées. Là-bas.
Ouais, c'est. Je vous écoute, mais ça me touche tout ce que vous me dites là. On va se libérer. J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que votre spectacle, le théâtre en général, mais ce spectacle qu'on a vu ce soir, peut contribuer à changer le regard des gens sur la santé mentale ?
J'aimerais bien. Après, je sais pas trop.
Ça peut. Je confirme, ça peut.
Ouais. Ce que je vois, c'est que là, par exemple, il y a une dame qui est venue témoigner et qui m'a dit qu'elle avait vu la lecture d'Henriette il y a 3 ans à Cahors, la lecture du texte avec ma tante qui était présente et le musicien, et que ça l'a bouleversée à tel point qu'elle a été faire plein de recherches en fait sur sa vie. Sur
oui,
son
j'ai
histoire.
Entendu ça tout à l'heure. Ouais.
Voilà. Et en tout cas, ce que je sens, c'est que moi, comme j'ai une parole très authentique. Et que c'est cette authenticité, on en souffre beaucoup aujourd'hui parce que avec les réseaux sociaux, quoi, on est envahi de mensonges. Et cette authenticité, je sais, en tout cas, je le vois, elle va parler aux gens directement, au cœur, à ce qu'ils sont, à leur sang, à leur vie, à leur vibration. Et pour moi, ça c'est extrêmement important parce que je sais que ça peut bouger, ne serait-ce qu'une virgule chez une personne.
Est-ce que votre spectacle, il y a d'autres dates de prévues ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un spectacle qui fait peur hein, aux programmateurs.
La santé mentale ?
Ouais, une femme folle sur scène. Donc ce sont exclusivement des femmes qui m'ont programmé pour l'instant. Donc je vais jouer à Saint-Céré le 12 mars.
Au théâtre
dans
de
l'Ot, ouais, au théâtre de l'Usine. Ensuite, il y a des petites choses qui arrivent comme ça, mais pas tant. Bon, après, en ce moment, le spectacle vivant est mis à mal. Et puis, le sujet est difficile et beaucoup de gens me le disent, beaucoup de programmateurs n'osent pas. Pour eux, c'est...
Bah écoutez, nous, on va faire une émission. On est en train de la faire, cette émission. On va la monter et on va aller dans votre sens. Parce que moi, je trouve que ce spectacle, il faut le faire savoir.
D'accord.
C'est un très, très beau spectacle qu'on a vu ce soir. J'étais venu un petit peu reculons, vous voyez, je vous dis la vérité.
Oui, pathos.
Pathos, ouais, excusez-moi
encore,
du terme.
Encore une femme qui va parler de sa grand-mère.
Excusez-moi du terme, finalement, je regrette de vous avoir dit ça, finalement, parce que c'est pas du tout ce qu'on a vu.
Oui.
Et on est totalement loin de ça. Et puis en plus, la mise en scène est belle aussi. C'est beau, c'est lumière, cette musique, c'est rideaux, votre voix, puis votre langage. Comment vous avez travaillé ce langage? On voit Henriette là, on la voit, on ne voit plus vous, on voit Henriette. C'est très beau.
Merci.
Ouais,
merci.
Le dis. Mais merci à vous en tout cas pour ce beau spectacle. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir. Cette émission a été enregistrée à la salle La Prade à Pradines dans le Lot en partenariat avec l'association Avec Pradines qui est également l'organisatrice de cette très belle soirée, une très belle pièce comme on vous l'a dit, Henriette ou la fabrique des folles de Cyril Atlan de la compagnie Les Atlantes.